L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Marie-Aimée Coppelaître.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Le ministère de la Justice saisi après l'apparition d'un site internet douteux en France, Bounty Chat, perçu par les autorités comme une renaissance du site pédopornographique Coco, fermé en 2024. Contacté par France Culture, le créateur du site se défend et parle d'une plateforme surveillée. Elle est grise, noire et rousse et les Français peuvent de nouveau la chasser. La tourterelle des bois, longtemps en voie de disparition en Europe. La Ligue de protection des oiseaux alerte. Énième week-end de manifestation au Royaume-Uni contre les demandeurs d'asile. Plusieurs centaines d'Anglais mais aussi d'Écossais crient leur colère devant les hôtels qui accueillent des migrants. Reportage sur place dans ce journal. Après le forum Coco, fermé en 2024 par les autorités pour des faits de crimes sexuels, le site ayant servi à organiser des guet-apens homophobes et à recruter les violeurs de Gisèle Pellicot, un autre site appelé Bounty Chat inquiète en France. Cette semaine, la haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a saisi l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, l'ARCOM, ainsi que les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Bonsoir Héloïse Weiss.
Bonsoir.
Vous avez réussi à rentrer très facilement sur ce site. Aujourd'hui, un pseudo, un code postal suffisent pour se connecter. Quant à l'âge, votre majorité n'a pas été vérifiée et pourtant vous avez été directement confrontée à des contenus d'ordre sexuel.
Oui, je m'y suis inscrite ce matin affirmant avoir 18 ans et en deux heures, j'ai reçu une cinquantaine de messages d'hommes, l'un m'envoyant une photographie de son sexe, d'autres m'ont proposé des pratiques sexuelles tarifées. Alors si cette plateforme se revendique alternative, elle se présente aussi comme successeur de Coco. La plateforme fermée l'année dernière avait été mise en cause dans des affaires de viol, à l'instar de l'affaire Pellicot. Mais pour le fondateur de Bounty, son site n'a rien à voir.
Ça a été uniquement d'un point de vue marketing et c'était uniquement pour attirer les premiers utilisateurs. On n'a jamais surfé sur l'image des dérives de Coco. Encore une fois, on a surfé sur l'image du chat en lui-même qui était Coco. En fait, on a bien dissocié ce qu'était Coco dans son architecture, c'est-à-dire une architecture de chat, donc des salons, des messages privés, possibilité d'ajouter des amis, cette structure-là, d'accord, et les dérives.
Pourtant, en début de semaine, un signalement sur des sollicitations faites à des enfants sur le site a été émis. La haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a saisi Pharos, la plateforme de lutte contre les violences en ligne, et l'ARCOM, le gendarme du numérique, pour que le site respecte le règlement européen. Écoutez Sarah El Haïry.
Ça commence par le contrôle et la vérification de l'âge. Il y a des images sexuelles et pornographiques sur ce site. À partir de là, il faut que l'âge soit contrôlé. Un enfant, un mineur, ne doit pas pouvoir y accéder. Ce site, il est dangereux parce qu'aujourd'hui, on sait que les enfants sont des proies. La différence avec le site Coco, pour le coup, c'est que Bounty est un site qui est basé en France. Et la loi DSA, la loi européenne et la loi sur le contrôle d'âge est passée depuis.
Une loi que le fondateur de Bounty dit ne pas connaître, mais il la respectera d'ici trois jours, sous peine de fermeture du site. Désormais sur Bounty, un message prévient les utilisateurs qu'un système de vérification d'âge doit être installé.
Merci Héloïse Weiss. Les partis politiques font leur rentrée ce week-end. Cet après-midi, Édouard Philippe a pris la parole à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Le dirigeant du parti Horizon s'est dit surpris de la décision de François Bayrou de soumettre le gouvernement à un vote de confiance. Le Parti Socialiste a aussi annoncé ce matin leurs idées pour le budget 2026. Ils souhaitent récupérer 27 milliards d'euros en taxant les grandes fortunes. Ils veulent également appliquer la taxe Zuckmann, taxe de 2% des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Une annonce décourageante, déclare la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Aujourd'hui, après ce choix de réautoriser en France la chasse de la tourterelle des bois, un oiseau qui a connu un déclin en Europe ces dernières décennies. La Commission européenne était intervenue pour interdire sa capture, mais la France surpasse cet avis, Savannah Ruelland.
Quand la Commission européenne a interdit la chasse à la tourterelle des bois en 2020, la population de cette espèce s'était effondrée de plus de 80% sur 40 ans. Cinq ans après cette interdiction, les scientifiques constatent une hausse du nombre de tourterelles des bois. Mais pour Cédric Marteau, directeur du pôle protection de la nature de la LPO, cette relative amélioration à échelle européenne cache de grandes disparités au niveau national.
Le Muséum d'histoire naturelle constate qu'en France, la population n'est pas encore en train de se redynamiser. Mais la Commission européenne regarde ça à l'échelle de l'ensemble des pays communautaires Et il se trouve qu'en Espagne, la population de tourterelles des bois est en train vraiment de se redynamiser et donc tire vers le haut cette bonne dynamique.
La chasse de la tourterelle des bois est donc à nouveau autorisée à condition de respecter un quota strict du tir de 10 560 tourterelles sur l'ensemble du territoire français. Pour Cédric Marteau, cette mesure pose la question du respect d'une jauge aussi limitée et précise pour la chasse d'un petit oiseau déjà beaucoup moins encadré que celle d'autres espèces comme le sanglier ou le chevreuil.
On peut imaginer qu'en une seule journée de chasse, les 10 000 oiseaux soient prélevés. Comment les chasseurs, qui sont plus de 900 000 en France, vont garantir de ne prélever que 10 000 individus.
De son côté, la Fédération nationale des chasseurs se réjouit de cette levée d'interdiction et assure que la jauge sera scrupuleusement respectée.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky déplore un meurtre horrible et minutieusement planifié après l'assassinat d'un député tué par plusieurs balles ce matin en pleine rue. Andriy Paroubi, figure politique majeure pour les Ukrainiens, il s'était fait connaître en 2013 lors de la révolution pro-européenne Maïdan. Une enquête est ouverte, pour l'instant impossible de dire qui se trouve derrière ce meurtre. Aux États-Unis, c'est un revers pour Donald Trump. Les droits de douane imposés par le président ont été jugés illégaux par une cour d'appel fédérale hier. Les juges ont estimé que la décision d'imposer des taxes sur un ensemble de produits de manière indiscriminée ne respectait pas la loi. La Cour suprême des États-Unis doit désormais trancher sur le sujet le 14 octobre, Isabelle Labéry.
Cette difficile bataille judiciaire qui s'engage porte une fois de plus sur les abus de pouvoir du président Trump. Mais cette fois-ci, l'enjeu est considérable, car c'est le cœur même de sa politique économique qui est contesté. La Cour suprême devrait accepter d'examiner l'affaire, on ne sait pas quand. D'ici là, toutes les taxes douanières imposées par les États-Unis restent en vigueur au moins jusqu'au 14 octobre. Mais que se passera-t-il ensuite si les juges confirment leur caractère illégal? Eh bien, le gouvernement devrait rembourser des sommes considérable aux importateurs américains. En juillet, les recettes des droits de douane s'élevaient déjà à 159 milliards de dollars, deux fois plus que l'an dernier. La ministre de la Justice met en garde contre la ruine financière du pays. L'annulation des droits de douane risquerait aussi de provoquer un certain chaos dans les accords commerciaux, mais elle aurait surtout une conséquence politique. Ce serait un coup terrible porté à l'autorité et à la réputation de négociateur de Donald Trump. Un scénario qui est toutefois loin d'être écrit, puisque la plus haute juridiction américaine reste dominée par les conservateurs.
Isabelle Labéry, correspondante aux États-Unis. Elles ont eu lieu tout l'été, chaque samedi, et continuent encore ce week-end au Royaume-Uni des manifestations anti-migrants qui se tiennent devant des hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Il y en a eu près de Londres et désormais, c'est en Écosse, à Aberdeen, dans l'est du pays, la droite conservatrice s'est donné rendez-vous, reportage de Thomas Arms.
Ils sont une centaine de chaque côté de la rue, chaque camp derrière des barrières métalliques et encadré par des policiers. Entourée de drapeaux britanniques, Jennifer, piercing sur la langue et tenant la poussette de son nourrisson, est venue avec sa mère.
Il ne devrait pas être dans notre pays, il ne devrait pas se trouver ici. Quand vous voyez tous les sans domicile fixe à Aberdeen, ils ne reçoivent aucune aide. Ce sont ces gens, les réfugiés, qui reçoivent l'argent et l'aide dont nous avons besoin.
Ces manifestants affirment que les réfugiés sont des hommes qui ont une vision rétrograde des femmes et seraient derrière des agressions sexuelles dans la région. Des accusations qui circulent sur les réseaux sociaux. David et Debra sont venus en couple.
Ils sont ici et ils profitent de nos ressources. Ils viennent et ils attaquent nos femmes et nos enfants. Ils changent complètement l'apparence de notre pays.
De l'autre côté, devant l'hôtel qui accueille les migrants, les manifestants se félicitent de la décision de la justice britannique de donner hier un sursis aux réfugiés menacés d'être expulsés des hôtels. Hélène tient une pancarte « Réfugiés bienvenus ».
On doit bien héberger quelque part les gens qui demandent l'asile pendant que leur demande est traitée.
Les conservateurs, aujourd'hui en tête de pont pour critiquer la mesure d'hébergement des réfugiés dans des hôtels, sont pourtant ceux qui l'ont mise en place en 2022 quand ils étaient au pouvoir à Downing Street.
Et ces 12 derniers mois au Royaume-Uni, un peu plus de 111 000 personnes ont demandé l'asile. Il s'agit d'un record. Pour soutenir les Gazaouis, ils sont en ce moment près des tapis rouges et des robes de perles. Plusieurs milliers de personnes manifestent à la Mostra de Venise, le festival international de cinéma Stop Génocide d'origine Gaza ont brandi les manifestants avec des drapeaux palestiniens. La météo de demain, de la pluie du Pas-de-Calais jusqu'en Nouvelle-Aquitaine avec des risques d'orage en Bretagne, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté, du soleil sur le reste de la France. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.